Les magiciens nous mènent à la baguette, un podcast écrit par Léa Coste pour Magma et réalisé par Gilles Cabot pour le label 42.
Quand on pense magie, on pense à un lapin qui sort d'un chapeau, à une femme coupée en deux, ou à ces anneaux inséparables qui, inlassablement, se retrouvent séparés. On pense à des tours exécutés par des magiciens au look douteux, assistés par une dame dénudée sans aucune raison, et promus par des affiches souvent dégueulasses. Bref, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Pourtant, à la première pièce miraculeusement sortie de notre oreille, on ne peut s'empêcher d'en redemander. Serions-nous totalement abrutis ? La magie telle que nous la concevons aujourd'hui est intimement liée à un homme, Jean-Eugène Robert Houdin. Horloger de profession, mais aussi scientifique, écrivain et inventeur de génie. En 1845, il ouvre son théâtre et y dévoile ses soirées fantastiques. Lévitation, jeux de gobelets, anneaux, divination. La plupart des tours que nous connaissons aujourd'hui trouvent leur origine dans l'esprit fertile de Houdin. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le célèbre illusionniste Houdini a choisi un alias qui lui rend hommage. Il a été porteur d'un véritable âge d'or de la magie moderne et a inspiré des générations de magiciens. Le problème, c'est que 177 ans plus tard, on commence à en avoir soupé du tour des anneaux. Mais alors comment dépoussiérer les tours de magie ? C'est ce que nous avons demandé à Éric Antoine, magicien, humoriste et directeur du Théâtre d'Aix.
Il y a toujours eu comme ça, chez les magiciens, quelque chose d'un peu poussiéreux et ringard parce qu'ils se sont attachés à une image qui était l'image de l'âge d'or de la magie. Et même quand il y a eu une espèce de mouvement de modernité, c'est-à-dire que là où ils étaient en frac ou en chemise à jabot, ensuite on est passé, par exemple, dans la grande mode de Matrix, tout le monde portait des vestes en cuir longs, avec des manteaux longs en cuir et des pantalons à la Matrix. Et tout ça. Qu'est-ce qui est ringard ? C'est qu'il plaît à la mode. C'est quoi ? C'est temporel. Et l'émotion magique, elle est intemporelle. Et le ringard, il naît du fait que tu t'es arrêté à un moment de la mode et t'es resté dans ce moment-là. Alors après, le disciple. La magie revient à la mode, mais elle sera de nouveau ringarde si elle ne devient pas intemporelle.
You're a wizard, Harry.
I'm a what?
A wizard.
L'autre problème des magiciens, c'est leur personnalité. Si Éric Antoine échappe à cette malédiction en proposant un personnage qu'il qualifie lui-même de grand couillon et qui mixe humour et magie, d'autres sont moins inventifs.
Le magicien, il dit « Regardez ce que je viens de faire, regardez ce que je fais, des trucs que vous n'êtes pas capable de faire. Et regardez comme je suis extraordinaire. Et puis regardez comme je vous ai bien lu. » Dans ma tête, je raconte autre chose, je me dis « Regardez comme je suis couillon. » Et malgré que le fait que je sois un grand couillon, il arrive des trucs incroyables. Et donc si même moi qui suis un grand couillon, je suis capable de faire des trucs comme ça, vous imaginez ce que vous pouvez faire. Si tu enlèves de ce superbe magicien, il devient quelqu'un à qui tu peux t'attacher et quelqu'un avec qui tu peux partager quelque chose d'un ordre émotionnel. Alors qu'avant, quand il est sur son piédestal, tu peux juste l'admirer. L'admiration, c'est pas le partage. Donc l'émotion, elle se fait égale à égale.
C'est de la magie que je ne m'y connais pas. Bipidi-bobidi-bou.
Si on récapitule, la magie est souvent ringarde et les magiciens souvent arrogants. Mais alors pourquoi, nom d'une pipe, continuons-nous à aller voir des prestidigitateurs ?
Les magiciens qui arrivent bien voir les comédiens.
C'est la question que s'est posée Joshua Jay, magicien et conférencier. Il a décidé de mener une étude pour tenter de comprendre ce que pensait vraiment le public des magiciens. Pour ce faire, il a interrogé 526 personnes âgées de 18 à 80 ans et a découvert que l'effet de surprise était la composante fondamentale pour un tour réussi. Donc, les spectateurs attendent une surprise alors même que, par définition, une surprise se doit d'être inattendue. Une situation d'autant plus cocasse que de nos jours, les magiciens sont face à un public biberonné aux écrans et à la réalité virtuelle, à un public qui a donc, a priori, déjà vu un paquet de trucs chelous. Pour Raphaël Navarro, qui est à l'origine du mouvement artistique de la magie nouvelle, ce n'est pas nécessairement un problème.
Je pense que la magie reste plus nécessaire encore qu'avant, ou en tout cas le fait qu'il y a une envie du public de retrouver cette magie-là fait que quelque part, quand on est face à une bascule du réel et qu'on est témoin de ça, ça nous reconnecte quelque part à lui, même si ça passe par un jeu d'illusion. Paradoxalement, en fait, on a presque encore plus besoin aujourd'hui de magie qu'avant, parce que on a besoin de se sentir humain et donc attaché au monde et de sentir qu'on est capable de le transformer.
Aller voir un spectacle de magie, c'est décider, en son âme et conscience, de se délester de quelques deniers pour admirer quelqu'un qui a mis toute son intelligence et tout son talent au service d'un mensonge. Dans son étude, Joshua Jay nous le dit. Le fait de ne pas comprendre comment les tours sont réalisées constitue à la fois un attrait et une gêne pour le public. Quand le spectacle commence, on scrute la scène, on observe chaque geste avec attention. On en est certain, cette fois-ci, on percera à jour les secrets de ce saltimbanque. On sait pertinemment qu'on est le témoin d'une tromperie monumentale. Mais lorsque le magicien se met à réaliser des tours, on a beau savoir que tout est faux, l'envie d'y croire finit par triompher. Puisqu'on sait que tout n'est qu'illusion, mais que la magie opère tout de même, pourquoi le secret des tours est-il si important? Pour avoir dévoilé les secrets de l'illusion sur un plateau de télévision, Penn et Teller, un duo de magiciens, se sont attirés les foudres de leurs confrères. Pourtant, ce qu'ils montraient au fond, c'est que ce n'est pas le trucage qui fait la force d'un tour, même s'il ajoute incontestablement à la fascination du public. L'émotion magique réside dans l'écriture de la magie, sa mise en scène, sa force poétique et narrative. Pour Éric Antoine, la notion même de secret est de toute façon à questionner.
Le magicien a pouvoir parce qu'il a le secret. Et la notion de pouvoir, elle est quand même complexe. C'est-à-dire, les gens de pouvoir, c'est ce qu'on déteste en réalité. Et il y a une vraie différence pour moi entre le pouvoir et la puissance, comme il y a une vraie différence entre le secret et le mystère. Et je dirais entre la prestidigitation et la magie. Le secret, le pouvoir, la prestidigitation sont associés, la magie, le mystère, l'émotion, la puissance sont associés. C'est-à-dire que le secret, c'est celui qui a une question qui a la réponse, dont la réponse est cachée. Le mystère, c'est la question qui n'a pas de réponse. C'est-à-dire l'amour, la vie, la mort, c'est question intemporelle. Et de nouveau, le secret est dans la mode, dans le temps, dans la temporalité, alors que le mystère, il est intemporel. Et je dirais que le magicien, enfin la figure du magicien classique de scène, il est malheureusement trop attaché au secret. Et il ne laisse pas assez de place au mystère. Et le mystère, tu le retrouves plus dans des arts majeurs, comme le théâtre, comme la peinture. Et je pense que ça doit être la quête du magicien d'aujourd'hui que de se rapprocher de cette profondeur, de ce mystère-là.
C'est justement ce qu'explore la magie nouvelle. It's a kind of magic. Ce mouvement, né il y a une quinzaine d'années, notamment sous l'impulsion de Raphaël Navarro, propose une magie sans magicien.
C'est un mouvement artistique qui regroupe aujourd'hui une centaine d'artistes qui travaillent sur le fait d'utiliser le langage de la magie comme un langage d'art contemporain et qui se nourrit un petit peu de toutes les pratiques de magie qui existent, y compris les pratiques de magie qui ne sont pas forcément liées à l'illusion. C'est un petit peu comme ces magies nouvelles, comme le nouveau cirque, comme pour la danse contemporaine, ou ce qui s'est passé pour la marionnette, ou la bande dessinée, etc.
Et comble absolu, la magie nouvelle se pratique en open source. L'avantage, le partage des connaissances, l'enrichissement mutuel et donc l'enrichissement de l'art. Elle fonctionne comme un lieu de recherche et d'expérimentation qui n'a qu'une seule mission, insuffler un peu de poésie en ce bas monde et inviter le public à se libérer du poids de la réalité. Alors après réflexion, rassurons-nous, nous ne sommes peut-être pas si abrutis que ça.